L'aime. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi, rediffusée à 18h. Aujourd'hui, c'est lecture dans les grandes largeurs avec un bel éditeur, vous le connaissez forcément, son nom sonne bien déjà, Locus Solus, une maison d'édition qui a commencé à l'Opérec, qui est aujourd'hui à Châtelain. Donc c'est vraiment un éditeur du Finistère. En ces temps où on évoque la crise de la lecture, où paraît-il on a déserté les livres pour les écrans, voici que Locus Solus semble bien droit dans la tempête. La maison fête ses 10 ans et c'est aussi une des raisons de notre invitation. Alors avec nous aujourd'hui, il y a Sandrine Pondaven, l'une des fondatrices et dirigeantes de Locus Solus, et Régis Lemercier, responsable de promotion et de communication. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors 10 ans. Bon, ben voilà, on va faire déjà une rétrospective, c'est logique. Cette histoire de cette maison d'édition qui a commencé vraiment à l'Opérec, dans la campagne, hein, c'est ça?
Tout à fait. En effet, moi j'habitais près de Brest et mon associé, donc Florent Patron, sur Quimper. Donc c'était assez évident qu'il fallait s'implanter à peu près à mi-route entre le nord Finistère et le sud Finistère. Donc on cherchait du côté de Châteaulin, ça paraissait assez logique, pas trop loin de la voie express. Et puis un auteur, ami, nous dit, venez voir à L'Opérec, il y a sans doute des choses possibles. Le maire est très actif et accueille des jeunes entreprises en création. Et...
C'était pas Hervé Grieck par hasard l'auteur?
Ouais. Tout à fait. Hervé Grieck, qui est bien connu ici, qui était le proviseur adjoint du lycée agricole du Nivotte, qui écrivait et qui écrit toujours des livres sur la nature, les jardins, les plantes. Et voilà que moi j'imprimais puisque j'étais
commercial. Oui, vous étiez dans le métier quand
même. En imprimerie. Ouais.
Ouais. Notre parrain.
Et c'est notre parrain depuis le début. Hervé est toujours très présent à nos côtés. Et puis voilà. Donc on s'est dit avec Florent, on monte notre maison d'édition. Florent était éditeur déjà depuis plus de 20 ans. Moi, je travaillais dans le milieu de l'imprimerie et c'est comme ça que j'ai découvert le milieu de l'édition par l'impression des livres. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les auteurs, les éditeurs de Bretagne, les collectivités, les musées qui avaient besoin de publier des livres.
Ouais, vous aviez identifié les besoins, en fait, c'est ça?
Oui,
aussi.
Voilà. On connaissait bien notre territoire et on s'est dit, on crée une autre maison d'édition, tous les deux, parce que c'est vrai qu'au début, on était à deux, à l'Opérec. Moi qui arrivais d'une entreprise de 115 personnes, je peux vous dire que ça a été un choc. Passer d'un endroit bouillonnant, très vivant, en 3-8, arriver à l'Opérec, plus qu'à deux, c'est vrai que ça a été une petite étape psychologique à passer. Mais bon, voilà, ça, en tout cas, c'est un secteur qui me passionnait, qui me plaisait. Et j'arrivais à la quarantaine, donc sans doute peut-être une petite crise aussi de la quarantaine, en se disant, qu'est-ce que je vais faire de mes prochaines années professionnelles? Et voilà, je travaillais déjà avec Florent, que je connaissais bien, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'on travaillait ensemble.
Ouais, c'est important. Ouais.
Voilà, c'était la bonne personne au bon moment, on était complémentaires et on avait envie de se lancer.
Et c'était quand même une bonne période pour créer une maison d'édition, parce qu'il y a 10 ans, on parlait déjà de crise de la lecture quand même. Hein.
Exactement, alors 2012 en effet, déjà c'était une crise, on parlait de crise de la lecture, mais on parlait de crise tout court. Il y avait déjà des difficultés et on nous a dit, mais vous êtes fous de vouloir créer votre entreprise en 2012, attendez peut-être un petit peu. Non, c'était le moment, on était prêts, il fallait qu'on y aille, et puis voilà, on n'allait pas attendre indéfiniment de se lancer. Donc voilà, on est parti comme ça à l'Opérec tous les deux, et puis assez vite, finalement, les auteurs qui connaissaient bien Florent, qui l'avaient déjà publié, lui ont dit, on suit notre éditeur, c'est avec toi qu'on aime travailler, qu'on a envie de continuer. Et puis moi, j'avais un réseau aussi d'auteurs avec qui j'avais pu travailler, des musées aussi. Et voilà, on savait qu'on avait déjà plusieurs projets dans les cartons. Et assez rapidement, les 5 premiers livres sont sortis.
Alors quand on dit assez rapidement, les néophytes, on ne se rend pas forcément compte. C'est combien de temps il faut pour faire sortir un livre de la création de la maison d'édition?
Là, c'était 5-6 mois.
Ah oui, c'est assez rapide en effet. Ouais.
Voilà, parce que moi j'étais en activité jusqu'en septembre 2012. Octobre, je crois que 3 jours après la fin de mon précédent travail, on était déjà sur place à l'Opérec. On avait des locaux que la mairie nous a prêtés au début. Et puis, voilà, les premiers contrats à préparer, les premiers projets à mettre en place, à définir les collections, comment on allait les faire. Toute la partie financière, on l'avait vue en amont, le financement par une banque, un cabinet comptable.
Donc, il y avait quand même une banque qui vous avait suivi.
Voilà, ce qui n'est pas toujours évident dans l'édition, parce que dites que vous investissez sans savoir si vous allez vendre les ouvrages, ce n'est pas évident. Ouais. On a vu deux banques, on a eu un refus et un accord, et donc voilà.
Et les premiers livres, donc en 5-6 mois, ça veut dire qu'ils étaient quand même déjà bien avancés, c'est ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que Florent, lui, était disponible depuis le début de l'année et travaillait déjà sur ce projet de création d'entreprise, peut-être dans un premier temps à lui tout seul. Et puis c'est vrai que comme on se connaissait bien, il a commencé à me faire part de son projet. Et puis je me suis un peu vite prêtée au jeu, et voilà, quelques mois après, je lui dis, moi je suis prête à te suivre et on y va, on crée notre maison d'édition.
Alors, vous êtes resté à l'Opérec quelques années quand même. Enfin, je ne sais pas si on peut. Alors, dans les grandes étapes, il y a quand même eu le déménagement, mais il y en a peut-être eu d'autres avant. Vous avez peut-être commencé à recruter avant.
Alors, exact. Pour moi, les grandes étapes, c'était au début, on était à deux dans ce petit village. Et puis, on est passé à trois assez vite, puisque notre première stagiaire, Julia, est arrivée 6 mois après la création. Et puis, elle est restée 4 mois. Ça a été les congés d'été, sa soutenance, etc. Et puis 2-3 mois après, on a pu la rappeler et lui proposer un poste en CDI. Donc ça, c'était vraiment la première grosse étape, c'est d'avoir son premier salarié. Et de deux, on passe à trois, c'était déjà énorme pour moi. J'étais vraiment contente que l'équipe se renforce. Et puis, on a eu un deuxième stagiaire sur cette même période. Donc, on est passé de très rapidement à quatre. Ça faisait déjà plus équipe, moi, qui aime beaucoup ce côté-là, équipe, le côté humain, d'échange. Et ça m'a fait du bien.
Et c'est des stagiaires de quoi, en fait, pour qu'on se rende compte? Qu'est-ce qu'ils font
Alors, Julia était étudiante en master édition à Lorient, à l'UBS, où Florent intervenait. Et puis, l'autre stagiaire, c'était quelqu'un déjà d'expérimenté, qui avait, en parallèle de son activité principale de professeur, une maison d'édition qui s'appelait Sixto, qui était basée en Bretagne, entre Brest, Rennes et Nantes, où ils étaient plusieurs associés. Et puis, on avait rencontré Lionel qui nous a rejoint pour un stage en parallèle de ses autres activités.
Et quand est-ce que vous vous êtes dit, là, il faut qu'on pousse les murs et on peut pas?
Alors, en effet, au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que 60 mètres carrés à 4, plus 15 à 20 nouveaux livres par an au début, plus les rendez-vous auteurs, fournisseurs, les connaissances, ça allait vite être compliqué. Et donc, au bout de 3 ans et demi, j'ai commencé à mettre des alertes et à écouter un petit peu ce qui se passait autour de nous, en me disant, il va falloir malheureusement qu'on déménage ou qu'on construise un bâtiment. Donc, ces différentes idées ont été évoquées. On a cherché un terrain aussi, on a été visiter des bâtiments. Et puis, un jour, je vois une petite annonce, je crois que c'était sur le Bon Coin, entreprise à Châteaulin, ayant trop d'espace, cherche à sous-louer une partie de ses locaux. Alors, j'avais regardé où c'était, ça me plaisait bien. Et puis j'appelle le monsieur et puis il me dit, venez me voir si vous voulez. Je dis, nous à terme on chercherait quand même peut-être à acheter. Et le monsieur me dit, mais moi c'est la location, je sais pas trop si ça peut le faire. Bon, voilà, on reste en contact, je vais voir comme ça le bâtiment un petit peu de loin. Et puis 15 jours après, le monsieur me rappelle et me dit, finalement j'ai réfléchi, je suis prêt à vendre mon bâtiment, venez me voir. Et puis voilà, je dis, Florent, il y a peut-être un bâtiment là à aller voir qui nous correspondrait bien, c'est dans nos budgets, etc. Et puis on part voir ce bâtiment au coup de cœur. Idéalement, il y avait 6 bureaux, mais on s'est dit, on est à 4, peut-être qu'un jour on sera à 5. Et puis un bureau, ça va devenir une cuisine, et puis un showroom, on va pouvoir mettre une grande table, mettre tous nos livres en démonstration. Et puis on a dit oui, je crois, 2 heures après, après avoir passé quelques coups de fil à la banque quand même, pour savoir s'il y avait possibilité de financement.
Et c'est à quel endroit dans Châteaulin, pour préciser
On est dans la zone de Renard-Pins, donc quasiment en face de la salle de concert et de spectacle du Renard-Pins. Donc on est bien, on n'est pas loin de la voie express, c'est facile. Ouais.
Zone d'activité, vraiment, on peut le dire, avec beaucoup d'entreprises dans ce coin-là. Et là, vous étiez encore 4, c'est ça, quand vous avez déménagé? Et donc rapidement après, vous avez commencé à recruter, tant qu'à faire.
Voilà, donc là on est en 2017, donc parce que ça fait 5 ans qu'on est arrivé dans ce bâtiment qui nous paraissait immense au début pour nous 4. Et puis, rapidement, alors Julia est partie créer sa propre activité. Et puis, on a commencé à chercher quelqu'un d'autre en maquette. Et puis, quelques semaines après, notre assistante commerciale, Hélène Lumuno, est partie également pour retourner vers ses attaches brestoises. Et puis, il y a Régis qui nous faisait des clins d'œil depuis quelques mois, qu'on connaissait bien et qui était qui avait une grande expérience du milieu de l'édition, de la librairie.
Qu'est-ce que vous faisiez, Régis ?
Alors, depuis à peu près une vingtaine d'années dans cet univers-là du livre, j'ai précédemment été commercial dans différentes maisons d'édition. Puis, les dernières années avant d'arriver chez Locus Libraire, en espace culturel. Et c'est là, d'ailleurs, que Sandrine, à la rentrée 2018, est venue me débaucher sur mon lieu de travail. Et effectivement, j'ai rejoint l'équipe avec aussi Marianne et Benjamin, qui sont arrivés à peu près en même temps que moi, début 2019. Donc Marianne et Benjamin, qui sont tous les deux au studio. Et on a rejoint tous les trois à peu près en même temps l'équipe au printemps ou fin de l'hiver 2019.
Et Sandrine, vous avez chargé aussi Régis de faire la communication en plus du commercial.
C'est vrai que les deux sont tellement liés. Ouais. Et puis je savais qu'il fallait vraiment qu'on développe l'aspect commercial, on l'avait déjà, mais le côté communication, ça devenait une évidence. Et
vous aviez externalisé un petit peu, non ?
Ponctuellement, mais c'est vrai que moi j'en avais vraiment conscience, mais c'était un manque de temps flagrant au quotidien entre la gestion de l'entreprise, la fabrication des livres, la relation avec les auteurs, les fournisseurs. Enfin voilà, je ne savais plus trop où donner de la tête et puis c'est vrai que avec Florent, je crois qu'on n'a même pas... Enfin, on s'est regardé le jour où on apprenait qu'Hélène partait, on s'est regardé et c'est vrai que tout de suite on a pensé à Régis parce que on le connaissait un peu, on connaissait ses compétences et je pense qu'humainement on sentait que ça pouvait très bien le faire et c'est important quoi.
Et donc là vous êtes 6, c'est ça ?
Aujourd'hui on est 6, ouais. Puisque donc depuis 2 ans maintenant nous avons une assistante de communication chargée de tout ce qui est réseaux sociaux.
Voilà.
Qui m'aide bien au quotidien.
Et donc, il travaille avec Régis vraiment au quotidien. Elle est en alternance, ce qui fait qu'elle est 4 jours par semaine avec nous, en moyenne. Et puis, c'est vrai que c'est un côté qu'on a aimé développer, c'est cette communication, réseaux sociaux.
Ça fonctionne bien, il faut bien dire ce qui est. Quand on le fait bien, ça fonctionne bien, quoi. Ouais.
L'idée, c'est vraiment de garder aussi un contact, alors non seulement avec les médias, puisque effectivement, on parlait de communication, de services de presse, mais c'est aussi de garder un lien avec toute la chaîne du livre sur le secteur, que ce soit les libraires, bien entendu, même si on est déjà représenté par un système de diffusion et distribution par ailleurs. C'est un peu complexe tout ça, mais il y a toute une équipe qui assure la représentation commerciale de la maison d'édition. Mais l'idée, c'est vraiment de garder un contact avec tous ces gens-là. Je pense aussi aux médiathèques, bibliothèques qui sont prescripteurs et qui réalisent parfois des expositions ou sont intéressés pour faire également des rencontres avec des auteurs illustrateurs. Ouais.
Alors voilà, depuis le début de cette émission, on a un petit peu parcouru en filigrane la question de la chaîne du livre. Vous le disiez, c'est assez compliqué. Enfin, les gens ne savent pas forcément ce que fait un éditeur. Alors Sandrine, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots la tâche de l'éditeur ?
La tâche de l'éditeur, donc c'est vrai qu'elle est assez diverse et variée. Déjà, la première chose, c'est être en lien avec les auteurs. Le rôle d'un éditeur, c'est de faire connaître le travail des auteurs. Quand je dis auteur, c'est très large. C'est aussi bien des écrivains, ça peut être des illustrateurs, illustratrices, des artistes, des peintres, des photographes. C'est très riche. Il y a des gens qui sont ultra spécialisés sur des sujets. D'autres, au contraire, par exemple, dans le domaine de l'écriture, vont être des gens plutôt littéraires et vont écrire des romans, des récits, des essais. Et donc, le rôle de l'éditeur, déjà, c'est de publier le contenu d'un ouvrage, d'un texte, d'un auteur, mais aussi de suivre et d'épauler l'auteur dans parfois la réécriture de certaines choses, ou de pointer du doigt, tiens, tu as fait ça, pourquoi, et de pousser un peu dans ses retranchements aussi l'auteur, tout simplement. C'est un accompagnement aussi qui peut être financier. Je pense là typiquement au travail des illustrateurs et auteurs de bandes dessinées. C'est des mois et des mois de travail. On vient de publier récemment une très belle BD qui s'appelle Méridien, de 144 pages, 130 planches. Chaque case, c'est une peinture. Enfin,
c'est magnifique. Hein.
Ouais. On est vraiment super content d'avoir publié cette BD. Voilà, c'est 4 ans de travail pour l'illustrateur.
Donc, il faut avancer l'argent, en fait. C'est
voilà, il y a des avances à faire, ce qui est normal. Mmh. C'est ce qu'on appelle les avaloirs. Et puis, permettre au créateur de faire son travail de création et d'illustration.
Et quand il y a de l'illustration et du texte, c'est la maison d'édition qui assure la mise en page aussi, enfin la maquette, comme vous disiez, c'est ça ?
Voilà, alors en effet, donc on a un studio nous intégré à la maison d'édition, donc on a 2 maquettistes, Benjamin et Marianne, donc ils sont là vraiment pour, en lien toujours avec l'auteur, puisque ça, c'est la base de cette relation, c'est de sublimer leur travail par une belle mise en page, par un côté graphique, créatif, par des couleurs, par des polices, enfin c'est une multitude de petits détails, on ne se rend pas forcément compte. Non. Quand on est de l'extérieur, on voit le livre qui est fini, mais il faut imaginer, nous on imagine l'objet livre, donc ça veut dire aussi qu'on interroge des imprimeurs, qu'on cherche des papiers, des finitions, est-ce que ça rentre dans une collection, est-ce que ça pourrait être une nouvelle collection, et puis c'est des échanges, de la relecture, de la correction, plein de petits détails, jusqu'à la fabrication avec les imprimeurs. Mais entre-temps, on peut avoir des étapes aussi avec des photograveurs, des iconographes, où on cherche des compléments d'images, on achète des droits de reproduction des images. Donc c'est vraiment vraiment une chaîne graphique, c'est beaucoup de petites choses.
Ça, c'est la chaîne graphique. Puis après, il y a l'aspect commercialisation des ouvrages. Voilà, c'est plutôt votre partie, Régis.
Exactement. Nous, on intervient, je dis nous, avec Chloé, donc en assistante de communication, on intervient une fois que le livre est fait, en fait. C'est vrai qu'on suit un petit peu quand même ce que le studio propose et l'avancement du projet, mais on suit ça de loin. Et c'est vraiment quand on a l'objet en main que là, on peut agir.
Déjà, vous faites un catalogue, enfin, vous le mettez dans le catalogue,
oui.
C'est ça ?
Dans la maison d'édition, on fait un catalogue annuel.
Ah, d'accord.
Qui sort à peu près tous les ans au mois de mars. Catalogue qui présente l'ensemble du fonds éditorial, donc tout ce qui a pu être fait depuis 10 ans.
Et qui est toujours disponible, bien sûr.
Oui, bien sûr. Ouais. Il est en version papier, en version... Ouais, il est téléchargeable sur notre site internet. Et qui présente aussi les titres à venir, sur l'année à venir. Puisque pour des considérations commerciales assez strictes, maintenant, on est amené à annoncer nos titres au moins 6 mois à l'avance. Et à l'heure où on parle, notre année 2022 est déjà bouclée. On sait ce qui va paraître d'ici le 31 décembre. Et on va même devoir annoncer prochainement les parutions de janvier-février 2023.
Mode, vous voyez ? D'accord, ok, très bien. C'est comme ça.
Donc, pour revenir à notre rôle...
Ce catalogue, il est plutôt pour les diffuseurs, oui. Après, c'est ça, ou enfin pour les
vendeurs. Il est tout public, voilà, on le distribue volontiers sur les salons auxquels on participe, toute personne qui peut faire la demande, et on le lui fait parvenir volontiers. Voilà, et il a aussi une vocation professionnelle, bien entendu, donc c'est quelque chose que l'on transmet systématiquement aux libraires qui nous connaissent et aux médiathèques, bibliothèques, oui. C'est vraiment un outil de travail qui permet d'être à jour de toutes les publications et du fonds éditorial, oui.
Et donc, vous avez les relations avec les libraires, c'est ça ? C'est vous qui faites ça,
oui,
je suppose ?
Oui, entre autres. Alors, avec aussi l'équipe commerciale de Média Diffusion qui nous représente tout au long de l'année.
Qu'est-ce que c'est, ça, Média Diffusion, alors ?
Alors, c'est une société de diffusion.
C'est pas vous qui faites ça, alors ?
Ouais. Non, on confie ce travail-là à cette équipe. Ils sont à peu près 90 commerciaux sur toute la France. Ils sont organisés en sous-équipe, on va dire. Il y a une équipe qui s'intéressera qu'aux ouvrages littéraires, d'autres qu'à la bande dessinée, une autre qu'à la À la jeunesse, par exemple, aux albums jeunesse. Et puis, il y a une équipe avec qui on travaille de manière plus proche, on va dire. C'est celle qui s'occupe de tout ce qui est tourisme, régionalisme. Et c'est celle, sans doute, à qui on confie le plus de travail tout au long de l'année. Alors, ils nous représentent, nous. Ils représentent, bien sûr, d'autres maisons d'édition. Mais c'est 90 commerciaux et ils tournent régulièrement en librairie tout au long de l'année et ont un potentiel énorme. Ils passent tous les mois et demi, deux mois, présenter toutes les nouveautés de Locus Solus et d'autres maisons d'édition également. Et donc, le but, c'est de prendre les commandes. Mais cela se fait en amont de la parution. Mmh. C'est-à-dire que
évaluez quoi, combien vous allez pouvoir vendre l'ouvrage.
On appelle ça des notés. En fait, ils définissent avec le libraire les quantités souhaitées pour un ouvrage qui est à paraître dans 2, 3, 4 mois. Là, actuellement, ils sont en train de prendre les commandes des ouvrages à paraître à la rentrée.
Mmh. D'accord. Et Sandrine Bondaven, on peut dire que Locus Solus est un éditeur généraliste, c'est ça? C'était au départ, vous pensiez être généraliste ou pas?
Oui. Oui, parce que moi j'étais imprimeur généraliste et donc c'était ça qui était intéressant, cette variété de produits imprimés qu'on faisait, mais aussi dans la relation qu'on pouvait avoir avec les clients, tout simplement. Moi, je travaillais aussi bien avec un grand chef d'entreprise que le commerçant du coin, le restaurateur pour un menu, un auteur indépendant pour un livre plutôt littéraire, comme avec une collectivité ou un musée pour un catalogue d'exposition. Moi, déjà, ce côté variété, diversité me plaisait. Et Florent avait la même expérience que moi dans ce milieu de l'édition, en tant que généraliste, à faire des livres pour les enfants. En plus, nous, c'était une évidence, on a chacun 3 enfants. Donc, quand on a créé l'entreprise, on s'est dit, bon, on a déjà 6 enfants, panel test assez intéressant.
Là, pour le coup, c'est un secteur qui se porte bien.
C'est un secteur qui se porte bien et puis qui nous plaisait. Donc, voilà, on voulait faire de la jeunesse. On voulait faire aussi de la bande dessinée, puisque dès la première année, on avait publié une première bande dessinée. On voulait faire des ouvrages de texte. Et puis, bien sûr, en tant que possible, des catalogues d'exposition, des livres d'art, parce qu'on aime ça. On aime la peinture, on aime la sculpture et autres. On est assez curieux. Et donc, curieux. On se dit, on ne s'interdit rien.
Avec après, un prisme breton, dire quand même.
Ouais. Oui, parce que notre réseau, il est là, en Bretagne, en Finistère. Et les auteurs qui nous connaissent, ils sont d'abord basés sur la zone, sur le secteur.
Mais pas que.
Puisque c'est vrai qu'on a de plus en plus aussi de gens et d'auteurs curieux qui nous font des propositions d'un petit peu toute la France et même parfois de l'étranger.
Et vous êtes diffusé dans toute la France,
de toute façon. On est diffusé au niveau national, même en Suisse, Belgique, au Canada, Donc assez largement.
Et dès le départ, vous aviez défini donc ce panel de collections, où vous avez quand même augmenté les collections au fil des 10 ans.
On a augmenté, c'est sûr. Quand il y a un sujet, déjà ça évolue les sujets. On fait pas ce qu'on fait aujourd'hui comme on le faisait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et puis il y a des choses qui étaient évidentes. J'ai parlé de la jeunesse, c'était sûr qu'on souhaitait en faire. J'ai évoqué la BD. Au début, on faisait une bande dessinée par an parce que c'est long à mettre en place. Aujourd'hui, on est plutôt sur 3-4 titres par an. Et puis, on est passé de 15 titres la première année publiés à 2 à aujourd'hui 45 livres. Ce qui peut paraître peut-être peu, mais ce qui est quand même beaucoup, c'est quasiment un livre à boucler par semaine, si j'enlève le mois d'août et les congés éventuellement de Noël. Donc, un livre par semaine, on fait des petits livres, mais on fait beaucoup de gros livres, souvent très illustrés, avec beaucoup d'images, de dessins. Il faut suivre le rythme et l'équipe de 6 personnes est déjà bien, bien occupée au quotidien, ça c'est évident.
Ouais. Et parfois vous passez des commandes ou c'est quand même plutôt les auteurs qui viennent vers vous
La majorité, ce sont des propositions d'auteurs, qui parfois c'est sous forme d'un pitch de quelques lignes. Tiens, j'aimerais bien traiter de ce sujet-là parce que je connais ça, c'est un sujet qui me passionne. Donc on dit, pourquoi pas, est-ce qu'on peut creuser avec toi? On essaie d'établir un sommaire ou ce que va contenir le livre. Et puis après, l'auteur travaille pour ça, puis on échange au fur et à mesure du projet. Parfois, on reçoit des choses toutes faites qui peuvent être très bien. On a juste là un rôle plus d'imaginer l'objet, de le financer, puisqu'on c'est à nous de payer les différents prestataires. Ça passe par la maquette, l'imprimeur, l'iconographe, etc. Et puis parfois, c'est nous qui allons chercher des auteurs, parce qu'on se dit, ah tiens, tel sujet, ça va vraiment. On sait qu'il y aurait un public pour. Les libraires nous remontent aussi. ponctuellement des idées, des projets. Et puis, on fait marcher notre réseau, on cherche la bonne personne qui pourrait écrire sur tel sujet. C'est le cas, on a une collection de contes, des contes en poche qui sont à petit prix, dans les 6 euros. Et là, on a été chercher un auteur qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Tristan Pichard, qui est aujourd'hui nantais. Et qui, une fois par an, nous écrit des contes réécrits de manière contemporaine. Le premier titre, ça a été les contes traditionnels de Bretagne. Mais mis au goût du jour, quoi, avec du langage d'aujourd'hui et pas le vieux français que plus personne ne comprend, malheureusement.
Alors, il nous reste 1 minute 30, Régis Le Mercier. Ça passe trop vite.
C'est court,
pour
ouais.
Une sélection d'ouvrages à nous présenter.
Bon, il y a déjà eu pas mal de nouveautés depuis le 1er janvier qui sont parus, qui sont d'ores et déjà disponibles en librairie. On ne va pas revenir. Je crois que votre libraire préféré ici au Fou,
Gwenili
ouais. Amélie, qui intervient régulièrement sur l'antenne, en a déjà parlé. Je pense à Mes petites cités de caractère ou Méridien que Sandrine a évoqué tout à l'heure. On a
la BD, là, voilà,
développé ouais. d'autres collections sur les légendes arthuriennes, notamment ce printemps avec Christelle Le Guen, qui est des Monts d'Arrée et qui nous a créé une jolie collection d'albums jeunesse sur les légendes arthuriennes. Non, on va peut-être plus parler peut-être de ce qui est à paraître.
Alors allons-y, tout à fait.
Et avec des scoops ouais. pour la,
ah bah oui,
pour la
super,
fin
super.
De l'année, l'automne, en fait.
Ouais. Hein,
on participera d'ailleurs au mois de septembre au Festival Brest en Bulle, au Capucin, à Brest.
Comme tous les ans, d'ailleurs.
Comme
ouais,
tous les ans,
fait.
Exactement.
On est des fidèles, là.
Et puis, on essaye d'apporter notre plus tous les ans avec des nouveautés et souvent même des exclusivités. Et cette année, il y en aura même 2 qui seront présentées à cette occasion-là. On va d'abord aller du côté de Rennes avec un album graphique. Ça sera pas vraiment une bande dessinée, ce sera un récit graphique, on peut l'appeler ainsi, d'Olivier Keraval et Luc Monneret, avec qui on a déjà travaillé précédemment sur un album qui s'appelle La Gégado. Là, ça va s'appeler Dans la peau du bourreau. Et on va suivre le parcours atypique d'un bourreau, donc, qui s'appelait Anatole Debler, qui a vécu jusqu'en 1939 et exerçait un métier un petit peu atypique. Il coupait des têtes.
Hein. En effet.
voilà, on évalue à peu près à 400 têtes en un demi-siècle le nombre d'exécutions auxquelles il a participé. Donc voilà, ça va être... dans le domaine de l'histoire et de la justice, un événement important. On aura également un collectif important, là, pour le coup, de la BD, avec plusieurs histoires courtes sur le thème maritime. Ça va s'appeler Océanide. Et donc un collectif d'illustrateurs et d'auteurs. Alors il y a des Brestois, mais pas que. On peut citer Gilles Dajava, Gwendal Lemercier, avec qui on a déjà travaillé, et bien d'autres. Donc ça, c'est à paraître également sur septembre.
Et ben on va s'arrêter là, parce que là, l'émission arrive vraiment à sa fin. Donc on va renvoyer les gens vers le site internet de Locus Solus. On vous remercie en tout cas d'être venu. On vous souhaite un bon anniversaire de 10 ans, puis vous reviendrez avant les prochaines 10 années. Merci, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.